Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège que nous soyons capables de nous réunir ainsi ici, chacun dans son coin, là où vous vous trouvez. Et le thème de cette conférence est « Combat le bon combat de la foi ». Et ce thème me rappelle beaucoup d'autres héros de la foi qui ont marché devant nous. Ce qui prendrait un long temps si nous devions mentionner chacun d'entre eux. Et comme nous entendons de ce thème, parler de ce thème, c'était l'instruction de Paul à l'égard de Timothée. Ceci n'est pas quelque chose de petit si vous entendez quelqu'un qui prêche l'Évangile et qui parle de combat. Et Timothée, en entendant ces paroles de la part de son père spirituel qui l'instruit et qui le conseille et qui l'équipe. Et l'un d'entre eux, de ceux qui a lutté, qui a combattu le bon combat de la foi et qui a marché devant nous en prêchant l'Évangile et en combattant ce combat, est personne d'autre que Pasteur Stegen, le directeur de la mission, notre dirigeant. Et peu importe l'opposition qu'il a reçue, toujours à nouveau, il allait de l'avant contre tout ce qui était dit en faisant le travail de Dieu, en allant de l'avant comme un pionnier, un exemple à combattre le combat de la foi. Et il a combattu le combat de différentes manières et beaucoup peuvent témoigner de cela. Et aujourd'hui, nous voyons le fruit et le résultat de son travail. Moi, j'ai vécu avec lui pour un long temps et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Et je pense que ceux qui sont croyants et ceux qui ne sont pas croyants peuvent témoigner du fait qu'il n'y a personne d'autre qui est aussi généreux que ce qu'il est et qui toujours donne et donne. Permettez-moi de témoigner de cela. Je dis cela courtement, brièvement. Moi aussi, des temps, je combats. Nous étions réunis avec quelqu'un d'autre avec qui on nous a enseigné comment lutter. Et c'est comme un training. Cela faisait partie de notre éducation. On t'a donné des épées ou des bâtons comment on a grandi dans cela. Et parfois, tu le faisais aussi avec le poing. Mais cela était considéré et comptait considéré comme quelque chose d'un bon combat. Et on nous a aussi dit que quand tu luttes, tu n'as pas le droit de frapper la personne sur la tête. Tu n'es que permis de lui donner des coups de corps. Et même si tu prends tes poings, tu n'as pas le droit de lui donner un coup de poing dans le visage, mais que sur le corps. Et une fois, j'ai dû faire face à 3 jeunes hommes et j'ai dû lutter contre les 3 et voir qui était celui qui est victorieux. Et il y a un certain type de viande que quand tu manges cette viande, et cela aide que tu es victorieux, tu le manges et tu le craches et tu dis je suis prêt et je suis prêt pour toi. Mais quand j'ai fait cela, moi en fait, j'étais poussé par un démon. C'est un démon en moi qui me poussait à faire cela. Mais nous utilisions et nous mettions Dieu en nous. Et donc, moi, j'ai utilisé simplement que son nom, parce qu'un de mes noms est Israël. Donc, j'ai dit Israël, lutte. Et Israël a dû lutter à la guerre. Moi aussi, je voulais être un guerrier. Mais c'est un tel combat, ce n'était pas quelque chose de où il y avait des règles où on t'enseigne à lutter proprement. C'était simplement là où tu fais ce que tu dois faire et ce que tu peux faire, de frapper l'autre sur la tête et de lui donner, de le blesser, peu importe ce que tu fais. À la fin, tu es triomphant et tu dis « Mon nom est Israël et je suis un vrai guerrier ». Mes frères et sœurs, Dieu m'a sauvé de cette boue, d'une telle vie, à travers Pasteur Stegen. Dieu a utilisé Pasteur Stegen quand il est venu dans notre région, dans notre communauté, en 1963. Et à partir de ce temps, je pouvais le nommer mon père spirituel sans avoir honte. Et en 1966, quand Dieu a agi d'une manière merveilleuse et qu'il y avait beaucoup qui étaient libérés de démons, qui étaient possédés, il y avait ceux qui étaient guéris physiquement et spirituellement. Et alors j'ai dit, si un jour je vais avoir une fille, je vais la nommer rendue libre ou libérée, un nom Zulu dit Kululiwe. J'ai témoigné de beaucoup qui étaient libérés de l'esclavage du péché et de l'esclavage de Satan. Et en vérité, le Seigneur nous a donné une fille en 1972 et je l'ai prénommée Kululiwe, ce, si tu traduis, signifie libéré, délivré. Être libre. Et quand les gens il a été prié pour les gens, il y avait des manifestations de ces mauvais esprits où il y avait un chien qui aboyait dans une personne et tu pouvais entendre que c'est un chien qui aboie, mais en fait cette personne avait un esprit d'un chien. Venons à notre parole et lisons dans l'épître de Jean, chapitre 8, à partir du verset 30. Seigneur, parle-nous à travers ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi, afin que tu ouvres nos pensées, nos yeux, notre esprit, et que nous puissions t'entendre parler. Amen. Ici, Jésus parle d'Abraham. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ceci étaient des choses que Jésus a parlé et a dites. Et quand ils l'ont entendu, plusieurs crurent en lui. Donc il est important de prendre attention, de faire attention à ce que Jésus dit. Dans verset 31, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc ainsi, si vous croyez au Seigneur Jésus en tant que jeune personne, même si tu es une personne adulte, peut-être tu es un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, peu importe ce que tu es, mais si tu mets ta foi en Jésus, alors tu es son disciple. Et cela est placé sur toi de propager ce message. Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous entendez comment la chose était tournée quand Jésus a dit que quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Regardez comment certains ont pris cette parole et comment ils l'ont transformée. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Ils n'ont pas compris le langage que le Seigneur Jésus a parlé. Ils l'ont pris littéralement comme quelqu'un, par exemple, qui est en prison. Et maintenant, vous entendez comment Jésus leur répond. Il dit, « en vérité, je vous le dis », leur répliqua Jésus. « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » « Vois-tu, jeune personne, si tu vis encore dans le péché, tu es un esclave du péché. Moi aussi, j'ai été l'esclave du péché et tout spécialement cet esprit de lutter qui a régné et m'a gouverné et je ne pouvais pas attendre pour le temps où nous nous rencontrions tous là-bas, où le bétail était vacciné et c'est là où nous avions lutté parce que je voulais montrer aux autres qui était le plus fort. Et c'est pourquoi, quand j'ai expérimenté cette libération dans ma propre vie et que j'étais libérée de tout cela, je voulais rendre cela clairement en nommant mon enfant, en lui donnant ce nom et en proclamant que cette liberté, cette libération est venue vers moi, a libéré ma famille. Mon père était alcoolique et il était libéré de l'alcoolisme à travers cet évangile et ce message. Et vous aussi, vous pouvez être rendu libre de ce péché. Et nous avons vu cette puissance de l'évangile. Nous avons vu quand cet évangile a atteint des gens et des cœurs, comment ils étaient libérés de leurs péchés et qu'ils étaient affranchis. Et cet après-midi, à 15 heures, durant l'heure de 15 heures, et que nous avions entendu les différents témoignages, nous avons entendu comment ils étaient libérés, ceux qui étaient l'esclave de la drogue et comment ils ont atterri en prison, mais quand l'évangile est venu, ils ont été rendus libres et libérés de cette chose. Frères et sœurs, que pouvons-nous dire de cet évangile qui nous rend libres et qui nous libère de cet esclavage? Nous devrions être capables de voler. Ou un jeune homme, une jeune fille peuvent être entièrement libres du péché, séparés du péché, et ils peuvent être complètement libres où ils ne sont inclus en aucun péché. Pas qu'une personne dise, bien, je vais vendre mon corps afin de gagner quelques sous, ou certains disent, séduisent d'autres et disent, ils vont en vacances, mais entre-temps, ils vont là où ils peuvent acheter ces filles et acheter leur corps. Ceci, c'est une vie de Sodome et de Gomorre. Ne me dis pas que tu es un croyant, un chrétien, si en tout temps tu retournes à ton péché et tu te roules dans ton péché. Est-ce que tu peux me dire que tu es sauvé? Comment peux-tu servir de maître? Comment peux-tu être préoccupé sur ton portable avec le péché, avec des choses terribles, et en même temps tu sers le Seigneur? Non, tu me trompes là. « Et là où tu trouves une jeune fille, elle sort par la fenêtre durant une nuit d'orageuse, l'orage, le tonnerre, les éclairs, la pluie, et elle est prête à passer tout cela simplement pour aller chez son copain. Ceci est un esprit de la convoitise et l'esprit de la chair qui la pousse. Verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Si une personne a obtenu le Seigneur Jésus, reçu le Seigneur Jésus, en vérité, il est libre et cette personne a ce témoignage en lui et cela aura un écho à ce que je dis. Quel salut merveilleux, cela est où jeune et vieux, un père, une jeune fille et chacun peut être libéré de cet esclavage du péché où un homme ne doit plus aller et boire et faire des choses terribles parce qu'il a été rendu libre. Et là, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, Paul instruit Timothée et il dit « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Ici, donc, en d'autres termes, ce que Paul dit à Timothée ici, il dit « Toi, combats le bon combat de la foi, même dans ton exemple en pureté. » Si toi, tu es un enfant de Dieu, tu as besoin de combattre ce combat de beaucoup de manières. Où est ce verset qui dit « Combattons le bon combat » ? Nous le trouvons dans le même livre de Timothée, 1 Timothée, chapitre 6, dans le verset 12. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. David a combattu le bon combat quand il est allé et qu'il a fait face à Goliath. Au nom de sa nation et de son peuple, il est allé contre Goliath et l'a vaincu. Si toi, tu mens, dis des mensonges, est-ce que tu combats le bon combat de la foi? Mais si tu n'as pas de rancune, si tu n'as pas de haine dans ton cœur, alors tu combats le bon combat. Même à travers ta manière de t'habiller, ton vêtement, en étant vêtu modestement, en tant qu'enfant de Dieu, ainsi tu combats le bon combat. Pas que, en tant que croyant, tu portes des vêtements et des pantalons qui sont si étroits que l'on puisse voir toutes les lignes de ton corps. Et certains, même si tu essayes de les conseiller, ils ne veulent pas accepter ce conseil parce qu'ils aiment ce style, ils aiment cette mode. Tu portes ces pantalons serrés et afin que cela porte, montre ton corps. Et cela est avec les femmes, les hommes, de même pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi il n'y a personne qui se lève et qui dit « Arrêtez, ne faites pas cela ». Je dis, certains le disent. Je pense que si Paul était là, il reprendrait. Et certains disent « On en a assez, personne n'écoute ». Je ne pense pas que Paul aurait permis Timothée, son fils spirituel, de porter de tels vêtements. Et je ne pense pas non plus que si Paul était encore vivant aujourd'hui, qu'il permettrait ceux qui sont les enfants spirituels de porter des vêtements indécents. Peut-être une jeune femme qui porte une robe courte et est vêtue de cette manière. Je ne pense pas que Paul aurait permis ceci. Combat, le bon combat de la foi. Pas un mauvais combat, le bon combat de la foi. En anglais, il est dit « Brillez là où vous êtes ». Brille dans le coin, là où tu es. Qu'il fasse nuit là-bas, peu importe, combat le bon combat de la foi afin que les gens voient ta lumière, que tu brilles dans ce coin. Et la parole de Dieu enseigne, instruit les enfants leur disant, les jeunes, honore ton père et ta mère. Le temps est venu où je n'ai pas montré respect à mon père. Mon père a dit que je devrais boire. Et j'ai répondu non à mon père. Et je ne veux pas. Parce qu'une fois, j'ai vu une femme âgée, qui était sous l'influence de l'alcool, et elle se roulait et roulait. Et j'ai demandé à ma mère, « Mère, que se passe-t-il avec cette femme? Pourquoi est-ce qu'elle fait ceci ?» Et ma mère m'a répondu, « Elle est sous. » Et mon père m'a donné un don, un nom, surnom, et m'a dit, parce que tu es ainsi, tu prends après ta mère, et il m'a donné un surnom qui va avec cela, donc que je me laisse influencer par ma mère et que je fais ce que ma mère me dit. Et une fois, j'ai vu mon père qui a sorti le restant de la bière et de l'alcool, que même un chien le buvait. Et j'ai pensé, oh, comment est-ce que je puisse boire quelque chose de pareil, même si un chien ne le boit pas. Je dis, excusez-moi si j'offense quelqu'un dehors qui écoute et qui aime son alcool. Ou à l'école, quelqu'un a dit, Israël, ici, il y a des cigarettes, il y a quelque chose à fumer. Fume. J'ai dit non, je ne peux pas faire cela. si Dieu avait eu l'intention que nous fumions, il aurait créé une cheminée. Donc, la parole de Dieu nous dit « Honore ton père et ta mère et obéissez-leur dans le Seigneur. » Es-tu un des parents qui encouragent leurs enfants à vivre dans l'immoralité, dans la prostitution et dit « Allez, et amenez-nous de l'argent, va vendre ton corps. » Et une fois, j'étais à un certain lieu où il y avait une jeune fille qui est venue en pleurant, en larmes, elle me dit, ma mère m'a dit que je dois porter un enfant et je dois avoir un enfant. Alors on reçoit le soutien du gouvernement. Imaginez la mère qui dit à sa fille, va avoir un enfant, reçois un enfant. Fais-toi faire un enfant afin que nous obtenions le soutien du gouvernement. Imaginez une telle mère. Imaginez la saleté et sale cet argent est qui est gagné de cette manière et combien sales sont la nourriture qui sont achetées avec cet argent. Et ici, la parole de Dieu nous dit, Paul qui dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Jeune personne, pose-toi toi-même cette question. Est-ce qu'il n'y a rien dans ta vie, la manière dont tu vis, dont tu te conduis, qui pousse d'autres à te mépriser? Oui, tu te nommes enfant de Dieu, mais ta vie te contredit. Le jour va venir où ce sera trop tard, comme cela a été avec le temps de Noé, où Dieu a instruit Noé de construire une arche, et ce qu'il a fait dans l'obéissance, et personne n'a pris ou donné attention, personne n'est venu pour entrer dans cette arche. L'arche était fermée, les flots sont arrivés, et quand l'eau est montée, les gens ont commencé à paniquer. Ils ont dit, les gens sont venus, laissez-nous entrer. Ils ne pouvaient pas parce que la porte a été fermée et Dieu a jeté la clé. Le temps va venir où cela va être trop tard, la porte va être fermée et tu vas dire, s'il te plaît, nous avons besoin d'entendre la parole. Ayez des réunions pour nous, mais ce sera trop tard. Ce COVID-19 nous met dans un coin. Et j'ai dit à quelqu'un une fois, si c'est les pasteurs et les croyants, si seulement pouvaient se réunir, et si tous les croyants se réunissaient et priaient, je crois de tout mon cœur que cette épidémie peut prendre fin ou arrive à sa fin. Et ainsi, cela est un test, un processus. Dieu nous fait passer par la passoire. Certains, s'ils voient le bateau s'enfoncer, ils crient à Dieu et ils viennent au salut. Mais je crois que si les croyants s'unissaient dans la prière et criaient à Dieu, que Dieu intervient et il peut apporter cette épidémie à un stop. Mais pas une prière où tu doutes, mais une prière où tu crois. Tu crois en Dieu et Dieu peut faire cela. Où nous crions à Dieu, quand nous avons crié à Dieu pour un réveil, quand nous étions dans la prière, nous étions désespérés. Et il y avait ceux qui nous ont quittés, certains ici, d'autres là-bas, mais il y avait ce noyau de personnes qui est resté sincèrement dans la prière parce qu'ils croyaient de tout leur cœur que Dieu pouvait leur envoyer le réveil, et en vérité, Dieu nous a accordé ce réveil. Pas comme tu es couché sur ton ventre et que tu prie, mais quand tu pries vraiment et que tu cries à Dieu. Un autre exemple, Martine de la Hollande a dit qu'ils ont expérimenté une période de sécheresse et il m'a demandé de prier. Nous avons prié, j'ai entendu qu'ils avaient de la pluie merveilleuse. Et est-ce que Dieu seul peut répondre à des prières? C'est un jeune homme ici qui m'a parlé et j'ai dit... J'ai pas dit, moi, je vais prier. J'ai dit, prions. Nous pouvons prier. Et il est revenu, il m'a dit, Père, nous avons reçu de la pluie là-bas dans les Pays-Bas, mais s'il te plaît, continuez à prier, ce n'est pas suffisant. Et il est dit qu'ils seront rendus libres en vérité. Est-ce que vous entendez cela? Vous qui êtes un drogué ou quelque chose d'autre, Dieu peut vous rendre libre en vérité. Il peut vous affranchir. Et si Satan vient et il te dit, tu dois faire cela maintenant, que tu puisses répondre et dire non, je ne suis plus addicté, je ne suis plus un esclave à cela, j'ai été rendu libre. Et de cette manière, tu combats ce combat éternel et ce bon combat. Combat le bon combat de la foi. Et en anglais, cela semble si bon. Combat le bon combat de la foi. Frères, nous avons reçu le Seigneur Jésus. Continuons à combattre ce bon combat de la foi et que ce feu brûle en nous. Je ne sais pas si tu expérimentes encore ce feu enflammé qui brûle, ce feu que tu as reçu quand tu es venu à Christ. Est-ce que ce feu s'éteint lentement ou est-il éteint? En prêchant, en chantant, en témoignant, par ces choses, si tu as l'esprit de discernement, tu peux discerner si ce feu brûle encore ou pas. Tu peux trouver des gens qui prêchent très éloquents à la radio, mais tout cela, ce n'est que la connaissance qu'ils ont reçue. Mais tu vois et tu expérimentes, il n'y a aucun feu, il n'y a pas de vie dans ces sermons et dans ces prédications. C'est comme un tonneau qui résonne, un tonneau qui fait beaucoup de bruit et qui résonne. Mais si le feu de Dieu brûle dans la vie de quelqu'un, même si cette personne prie et quand ils lisent la Bible, quand ils font cela, tu expérimentes cette chaleur et tu trouves qu'il y a la vie dans ces paroles. Et comme Paul dit à Timothée qu'il doit être un exemple dans l'amour. Et où tu as un frère, une sœur dans la foi en Christ, quand tu ne les as pas vus pendant longtemps et tu ressens que ce vide et que vraiment cette personne... Tu languis la personne. Que ce soit un frère ou une sœur dans le Seigneur, mais où tu ressens cet amour fraternel, cet amour en Christ, et quand tu languis cette personne quand tu ne l'as pas vue pour un long temps. Ma mère nous a aussi enseigné, elle nous a dit, quand quelqu'un prêche, tu as besoin de porter cette personne dans la prière. Et ça, c'est ce qu'elle avait l'habitude de faire. Et ça, c'est ce qu'elle nous a enseigné. Elle a dit, quand cette personne prêche, toi, tu pries pour eux afin que Dieu accorde ces mystères célestes et qu'il ait la révélation d'en haut quand la personne prêche. J'étais si heureux quand j'ai entendu, après la réunion de ce matin, qu'il y avait beaucoup qui ont répondu et qui ont contacté Radio Kwesi, nous indiquant que les gens écoutent et que les gens sont bénis, et même après la réunion hier soir. Et hier soir, la réunion de hier soir, ils ont dit « Merci beaucoup, nous l'avons entendu, c'était une grande bénédiction ». Un jeune homme, à l'âge de 6 ans, a téléphoné. Il a dit, s'il te plaît, priez pour moi. J'ai la diarrhée. Et son grand-père a dit, « Toi, tu demandes la prière, c'est une bonne chose. Si les grands-parents peuvent encourager leurs petits-enfants à prier et pas simplement rapidement prendre des médicaments et des tablettes, des médicaments pour tout, mais à les enseigner, à leur enseigner à prier. » Et quand je suis arrivée pour prier, il a dit, je vais aller demander à ma grand-mère pour savoir quels sont mes péchés. Il y a différentes manières pour faire référence à une grand-mère. Donc, je m'assure que j'utilise la bonne terminologie. Et ainsi, cet enfant a dit, « Grand-mère, dis-moi, quels sont mes péchés parce que je veux confesser mes péchés ?» Et une grand-mère, elle connaît ses petits-enfants et elle peut leur dire quels sont leurs péchés. Et ainsi, la grand-mère lui a dit. Et ainsi, cet enfant est venu et a confessé ces choses et l'a mis en règle. Cet enfant, vous savez comment sont les enfants, après l'enfant est allé vers les eaux, vers d'autres, a dit, j'ai confessé mes péchés maintenant. Et je leur ai dit, j'ai fait ceci, cela, j'ai confessé tous ces péchés. Un jour, il y avait aussi une femme qui a prêché et elle a parlé sur le vol, voler des pêches ou voler des fruits et a dit, vous qui avez volé des pêches, un enfant immédiatement a levé sa main et a dit, oui, moi j'ai fait cela. Ça, c'est comment sont les enfants, spontanés, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que nous devons devenir comme des enfants parce qu'une telle personne est le plus grand dans le royaume de Dieu. Et cet enfant est venu pour la prière, a confessé ses péchés, on a pu prier avec l'enfant, et à travers cette foi, comme un enfant, cet enfant s'est levé, il joue au ballon et cet enfant va bien. Et moi aussi, comme j'ai demandé à la grand-mère, est-ce que tu n'as pas de médicaments pour un problème d'estomac ou la diarrhée? Ils m'ont répondu, mais l'enfant n'a pas besoin de cela. À travers le foie, la foi comme un enfant, tout ce dont ils avaient besoin, on a prié pour l'enfant. Après cela, tout allait bien avec l'enfant. Jeune personne, ici est mon défi. Vous avez entendu que les gens peuvent contacter Radio Kwesi. Donc, je vous défie, je lance un défi que si vous avez besoin de prière, vous pouvez soit contacter Radio Kwesi. Il y a des numéros que vous pouvez appeler aussi à notre réception. Il y a un numéro que vous pouvez téléphoner. Donc, trouvez quel est le numéro et demandez pour la prière. Et ça, c'est ce que j'ai à cœur. Et je vous encourage à combattre le bon combat de la foi. Et que les jeunes, durant ce camp de jeunes, durant ce mois de juin, qu'après la réunion, après le camp de juin, que vous puissiez dire que c'était après ces réunions, ma vie a été transformée, renouvelée, et je suis une nouvelle personne. Ne combattez pas un autre type de combat où les parents, grands-parents peut-être disent à leurs enfants, petits-enfants, allez voler une chèvre, allez voler une poule, afin que nous ayons quelque chose pour notre casserole. Mais nous devons combattre le bon combat de la foi. Un jour, un père a dit à son fils qu'il doit se lever tôt le matin, très très tôt, pratiquement au milieu de la nuit, à 1 ou 2 heures du matin, pour aller voler une chèvre. La nuit commençait et le père était nerveux, il regardait dans toutes les directions et personne ne les voyait. Puis il a dit, mais père, je vois, tu regardes de partout, à droite, à gauche, mais tu ne regardes pas en haut vers le ciel. Et quand ils sont retournés à la maison, la mère avait déjà la casserole sur la cuisinière parce qu'elle pensait qu'ils allaient ramener une chèvre et que rapidement elle allait le mettre dans la casserole. Et il a dit, ma femme, je suis désolée. Je ne suis pas revenue avec quelque chose parce que je suis allée avec mon fils. Et mon fils, à travers les réunions qu'il a entendues, écoutées, il a regardé en haut et dit, quelqu'un nous voit d'en haut et c'est pourquoi je suis revenue avec des mains vides. Nous remercions le Seigneur pour cet évangile qui est si simple et clair comme du cristal et que chacun peut comprendre. Pour nous qui avons écouté, je ne pense pas que quelqu'un puisse dire qu'ils n'ont pas compris. Nous avons tous compris, si nous voulons combattre le bon combat de la foi, comment nous devons combattre. C'est clair, c'est visible, nous devons avoir un cœur pur, un cœur qui est séparé du péché. Une personne qui ne marche pas dans les voies ténébreuses. Un enfant de Dieu qui s'approche du Seigneur. Et qui croit les voies de Dieu. Alors nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour être victorieux et pour être des héros de la foi. Vous avez entendu de David et Goliath? David a expérimenté le Seigneur qui qui a travaillé et a puissamment lui a donné des victoires. Et quand il a entendu parler de ce Philistin qui n'était pas circoncis et comment il se moquait l'armée de Dieu et Dieu lui-même, il avait quelque chose en lui et il a dit « Je ne peux pas me taire et regarder, moi je vais aller faire face à ce Goliath. » Oui, mais malgré que Goliath était un géant et imposant, fort, musculaire avec ses armes, et David était un petit garçon, un garçon qui, pour ainsi dire, n'avait pas d'armes, a dit « Je crois au nom de mon Dieu et je viens contre ce Philistin en son nom. » Parce que j'ai expérimenté sa puissance dans ma vie, ses victoires dans ma vie. Je ne vais pas lui permettre de moquer l'armée de Dieu de cette manière. David n'avait pas la victoire à travers les armes. Il a utilisé l'arme qu'il avait, l'arme qu'il prenait toujours avec lui quand il prenait soin du troupeau. Il avait la foi en Dieu, là que Dieu lui a donné la victoire dans ce qu'il faisait. Et ainsi, combattons le bon combat de la foi. Combattons contre le mal, contre le péché, et nous serons victorieux à travers la grâce de Dieu. Et que Dieu trouve des jeunes personnes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, garçons, filles, en qui nous pouvons faire confiance et que nous pouvons faire confiance qu'ils prennent ce message, cet évangile et propagent cet évangile. Entendez-vous, vous jeunes personnes, que nous devons briller dans le coin là où nous sommes. Alors fais cela, brille dans le coin là où tu te trouves. Brille dans le coin, là où tu te trouves, que ce soit en Johannesburg, au Cap, dans les Pays-Bas, en Roumanie, en Suisse, en France, en Allemagne, peu importe où vous êtes, mais brillez là où vous êtes. Prions ensemble. Ô Seigneur Jésus, nous te remercions pour cet évangile. Merci pour ton amour et tu nous as tant aimés au point à nous donner cet évangile. Et Seigneur, maintenant tu fais appel à des jeunes garçons, jeunes filles, jeunes femmes, jeunes hommes, de venir et de prendre un pas pour toi et de combattre le bon combat de la foi. Aide-nous, Seigneur, fais-nous grâce afin que nous te soyons fidèles, des gens que toi, tu peux utiliser. Et nous demandons tout cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.